Une personne m'a demandé aujourd'hui, comment peut-on avoir confiance? La confiance, comme beaucoup de qualités, se nourrit tout au long du chemin, au contact de ce qui se passe en nous. De même qu'il peut y avoir des moments de doute ou de manque de confiance, d'absence de confiance, on peut sentir par moments, je l'espère en tout cas pour vous, qu'il y a aussi cette dimension de présence confiante. C'est la présence, s'appuyer sur la présence qui va nous aider dans ce sens. On comprend que on peut céder ou on peut quelque part ne pas céder. Et quand il s'agit d'un lâcher prise par rapport à où se situe l'attachement, on peut percevoir qu'il y a différentes manières de s'attacher. Il y a un lieu d'attachement qui est particulier, qu'on peut certainement découvrir et explorer, et je pense par moments en tout cas, se positionner pour pouvoir voir exactement ce qui se passe, c'est l'attachement à nos idées. Donc pas forcément l'attachement à une sensation douloureuse ou à une émotion ou une pensée, mais vraiment des idées. Des idées qui vont naturellement faire qu'on a des opinions et que de ces opinions, eh bien, on construit notre monde. C'est vraiment extraordinaire de voir ceci se passer au sujet du monde à l'extérieur, au sujet de notre monde intérieur, ce qu'on vit nous par rapport à ce qui se passe, et puis aussi au sujet de la méditation. De toute évidence, on se pose peut-être souvent la question à savoir si on a des repères. Et sur quoi est-ce qu'on va pouvoir baser nos repères? Qu'est-ce qui fait qu'on va penser qu'on a une méditation qui va dans le bon sens? Ou au contraire, dans le sens opposé à ce qui est décrit? Tout en sachant que c'est un registre et un niveau de connaissance qu'on n'essaye pas trop d'élaborer, donc ce n'est pas évident, puisqu'on laisse l'être et la dimension de présence intuitive être quelque part le moyen et puis surtout le support. Donc, on s'appuie aussi sur la présence, qui veut dire que par moments, on n'a pas vraiment d'idée sur ce qui est en train de se passer. Et ça peut nourrir la pensée, mais est-ce qu'on peut vraiment évaluer notre pratique à un moment donné? Est-ce que c'est judicieux d'évaluer sa pratique? De manière inconsciente, souvent, on le fait. Donc, autant amener ça à la conscience, c'est-à-dire que évaluer dans le sens « ça va bien, est-ce qu'elle était bien cette assise ?» Non, elle n'était ppas bien. Sur quoi est-ce qu'on s'appuie pour dire « c'était une bonne assise ?» C'est pas une bonne assise, c'est une bonne journée. Et tout ça basé sur des idées, des a priori, des concepts. Et donc, lorsqu'on comprend qu'on encourage l'être en méditation et qu'on s'engage dans une pratique, on peut dire, spirituelle, on a vraiment à cœur de sentir que par moment, on est très, très porté sur le besoin d'un changement. Vous avez pu remarquer ça? Vous êtes là pour rester le même ou la même? Sûrement pas. Hein? Donc, on est venu pour avoir une certaine transformation, un certain changement qu'on aimerait. Et puis, c'est très intéressant de voir que lorsque j'étais en conversation avec une ou deux personnes aujourd'hui, à se dire, tiens, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, c'est... il ne reste plus beaucoup de jours et puis voilà, on sent que ça bouge et qu'en même temps, il reste des jours. Je dis, mais il en reste plein de jours. Il en reste plein. Voilà. Donc, c'est intéressant de réveiller la conscience et quand même, plutôt que d'être quelque part dans la confusion et de ne pas vouloir voir ça parce qu'on est juste au contact de l'air, l'être. Y a-t-il, au niveau d'un attachement à une idée, à une conception de ma pratique, un désir, même en présence, avec honnêteté et sincérité, une envie qui est basée dans un besoin de changement? Et que si la pratique, elle se fige à cet endroit, eh bien c'est important non seulement de le constater, mais de vraiment s'interroger. Est-ce que je change? Est-ce que je vais mieux? Comment c'était par rapport à comment quand je suis arrivée? Voilà. Est-ce que je suis ici pour une attente particulière, en fonction d'un but particulier? Si c'est le cas, est-ce que ça correspond? Tout ceci sont des questions qui sont immensément intéressantes en pratique, dans le sens que c'est pas simplement partir dans des idées, mais ça nous situe. Vraiment, ça nous permet de nous situer et d'avoir une position qui éclaire ce qui se passe, plutôt que de ne pas être conscient de ce domaine-là. Donc, ça vous parle ou ça n'a rien à voir avec ce que vous vivez? Je crois que c'est important parce qu'il y a des fois où, justement, bon, ben voilà, son petit bonhomme de chemin, sa petite routine, les jours passent. Hein, voilà, c'est effectivement, ils sont très semblables les uns aux autres depuis qu'on est là maintenant. Il y a vraiment quelque part un sentiment de protection parce que c'est vrai qu'on se sent quand même bien protégé pour pouvoir cheminer. Et puis il y a des moments où ben, on se dit, ouais, bon, ben. J'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui vienne et puis qui m'apporte un petit peu de distraction. Donc, sous-jacent, il y a peut-être un espèce de courant, là, d'attente. Et si la tendance est de se fixer sur l'objectif, très souvent, c'est évident que par rapport à un objectif, un résultat, eh bien, le constat, c'est que si on mesure, ça ne va pas assez vite. Le cheminement ne va pas assez vite. Donc, on a tendance à mesurer le fruit, si vous voulez, d'une assise, le fruit d'une marche, le fruit d'une journée, peut-être, par rapport à l'obtention de l'objectif qu'on s'est fixé. Si vous ne vous en êtes fixé aucun, formidable. C'est beaucoup moins difficile et compliqué. Maintenant, avec le temps, c'est vrai que en cheminant, en pratiquant, on comprend beaucoup mieux qu'il y a des hauts et des bas, qu'il y a des vallées et des montagnes, et que tout ceci est un processus, comme elle a dit aujourd'hui, c'est une spirale, mais que la spirale, elle peut être ascendante, et puis elle peut aussi être descendante, que par moments, ça semble extrêmement plat, et c'est un petit peu semblable à une aventure en marche, si on a fait des longues randonnées, par exemple, on a un petit peu hein, ce relief-là. Je trouve. Donc, avec le temps, lorsqu'on commence à persévérer et dans une plus longue pratique, sur une plus longue durée, on y voit un petit peu plus clair. Et par moments, ce qu'il est intéressant de constater, même si on est tellement proche, on est nez à nez avec nos expériences, par moments, de prendre un petit peu de recul et puis de percevoir le désir de changement comme un type d'expérience parmi d'autres. C'est un désir de changement. C'est une expérience. Voilà. Et qu'on n'isole pas cette dimension-là et qu'elle ne fasse pas partie de la pratique. Et ça, ça se fait, c'est bon signe quand on en prend conscience et que ce désir d'un changement, désir que ça aille vite, désir ou une attente, eh bien, à ce moment-là, c'est simplement, ah oui, du désir de changement. Et je le constate ainsi. Ça va nous donner une amplitude, vraiment élargir beaucoup, beaucoup beaucoup l'horizon, plutôt que de rester nez à nez avec nos difficultés ou nos obstacles, ce qu'on peut nommer les obstacles. Donc c'est très bon signe quand on commence à en prendre conscience. C'est immensément aidant. Saïdo Itajana, que j'ai déjà mentionné, il dit à la fin d'une assise, si vous avez une question à vous poser, plutôt que de vous dire c'est une bonne assise ou c'est pas une bonne assise parce que voilà, j'ai eu beaucoup de douleurs ou j'ai pas eu de douleurs, donc c'est là que je vais mettre le baromètre. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris, vraiment? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on essaye d'apprendre? C'est vraiment plus de sagesse, plus de contact avec la permanence, plus de compréhension par rapport à une absence de figement autour d'un moi, d'un je. C'est ça le sens de la pratique. Donc, c'est là qu'on peut vraiment, quelque part, avoir des points de repère. Des points de repère. Des repères qui font qu'on peut naturellement avoir... quelque chose qui se met en place, qui va dans le sens souhaité et pas pour se figer et se fixer. Donc le moyen, quelque part, le moyen, ce qu'on met en place comme moyen est le lieu de la résolution et non pas un autre lieu. Alors, il ajoute à ça, ce Sayado, il dit, la méditation, elle n'est pas du tout difficile. La seule difficulté, c'est que les gens, ils veulent avoir seulement des expériences plaisantes. Voilà, et ça c'est très intéressant. Donc, on perçoit déjà pourquoi ça peut être plus difficile qu'on le pense. Donc, devoir se débarrasser de tout ce qui est quelque part difficile dans le sens même d'une douleur physique. Voilà, en comprenant que il y a par moments effectivement des prédispositions qui sont heureuses, puis à d'autres moments, c'est bien plus difficile dans le sens de d'un rapport à des choses difficiles. Donc, qu'est-ce qui se met en place lorsqu'on commence à percevoir le désir comme du simple désir, même un désir de changement, d'une attente? Qu'est-ce qui change? On apprend à mieux tolérer, accepter, aller dans le sens des choses comme elles sont, telles qu'elles sont. Et c'est vraiment ceci qui va naturellement modifier tout notre registre par rapport à un cheminement dit de libération, une disposition d'accueil inconditionnel. Et ce mot-là, inconditionnel, ça peut paraître un peu élevé, mais vraiment, c'est tranquillement ce qui se met en place. Ça aussi, et ça aussi. Pas ça, eh bien oui, pas ça, mais ça aussi. Donc, dans ce cas, il y a un changement qui s'opère en nous. Et c'est là que se situe le changement. Cette dimension de pouvoir plus être en accueil, plus toléré, plus patient, plus confiant dans la présence. Et la disposition de l'esprit est plus d'ouverture, plus d'équilibre. Et c'est comme ceci que s'opère le changement. Dans le sens d'une ouverture. Donc, toute cette dimension, cette démarche est très importante à ce stade de la retraite. Et voilà pourquoi j'ai eu envie de proposer un enseignement comme celui-ci, parce que pour la majorité des gens, ça fait un moment qu'on est là, et puis que, voilà, on a mis énormément d'énergie pendant un certain temps, et puis qu'il y a eu peut-être un plateau, puis que tout à coup, il y a des moments où on sent que il y a un petit peu de lassitude. Il y a un petit peu, quelque part, pas de désengagement, parce que je trouve extrêmement engagée et vraiment très, très enthousiaste, et c'est merveilleux de voir ça. Mais que il y a un tout petit peu de difficulté dans ce sens, avec quelques constats de... Voilà, ça va pas assez vite, ou il y a une attente, ou alors je suis prise parce que justement je me dis, il y a très peu de jours, puis en fait il y en a quand même tout plein, avec tout ce qui a été quelque part nourri On a énormément là de qualités qui sont là et qu'on peut encore voir grandir et fleurir. Donc il y a plein de choses encore à découvrir en soi. Donc le changement qui peut vraiment se passer là, être s'opérer, c'est de passer d'un état de quelque part résistance, on peut dire, à un état d'ouverture ou de non-acceptation à l'acceptation de ce qui est, de ce qui est. De ce fait, je nourris la confiance. Comment est-ce que je nourris la confiance? En m'appuyant sur la présence, plutôt que d'essayer de forcer. C'est plus léger, beaucoup plus habile, beaucoup plus souple. Et dans cette attitude, si c'est possible, il y a beaucoup plus de fraîcheur. Même si on a des expériences qui sont là, et on a tous, hein, je pense, à un moment donné, et peut-être sur plusieurs jours, un endroit où ça coince, quoi. Que ce soit dans le corps, c'est... tout va bien, mais il y a ce petit truc, là. ce petit pincement dans le centre du cœur, ou bien dans l'estomac, ou bien souvent c'est un peu de pression dans la tête, ou enfin voilà, il y a pour chacun d'entre nous, puis... Voilà. Si seulement ce petit truc-là, puis on essaye de céder, puis on se rend compte que, voilà, ça ne veut pas lâcher, ça ne cède pas. Donc on essaye de céder là où ça ne cède pas. Puis ça ne se passe pas. C'est tellement fascinant, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'on essaye peut-être pas de la bonne manière. Donc c'est utile pour nous, par moment, d'éclairer et de réfléchir à mon rapport à la manière dont je pratique, comment je nourris le processus en vue de m'aider. Et donc, il y a une distinction, là, on peut dire deux types de changements. Celui qu'on peut nourrir qui est tout à fait favorable, c'est celui qui est en accord avec la nature de la réalité. Celui qui va dans le sens de simplement accueillir la réalité de ce qui est. Le deuxième, qui est le type de changement où on impose. On essaye, sans s'en rendre compte, très souvent c'est inconscient ceci, mais on essaye d'imposer le changement. Et à ce moment-là, c'est basé sur une volonté nourrie de... Mais moi, je sais m'y prendre. Non, mais enfin. Et puis, c'est tout à fait basé dans le je, le moi, l'ego. Et puis, il y a énormément là, quelque part, d'attachement, de désir. Donc, dans la mesure du possible, de ces deux types, on va essayer de favoriser le premier. Mais il faut déjà en être conscient. Vous voyez ? C'est ça. C'est que si on n'en est pas conscient, eh bien, on va naturellement basculer dans le deuxième mode. Et les petites voix qui disent « Ah, mais j'aimerais que ça avance plus vite » ou « Bon, ça va lâcher ». Et c'est très intéressant, ces petites phrases qui sont là, mais qui sont comme si elles faisaient pas partie du paysage, mais elles font complètement partie du paysage. Et on doit les écouter. C'est très important d'écouter ces petites voix. Ça avance pas assez vite, le commentaire, on piétine, on est à de l'impatience. Il y a plein de manières où ceci se passe. Et d'en prendre conscience, c'est OK, c'est vraiment OK. Donc, tout le soin apporté, cette dimension aussi qu'on a pu explorer, si on a eu l'envie de l'explorer cet après-midi, cette dimension de la bienveillance, de nourrir le soin, de prendre soin plutôt que d'essayer par l'obstination et la volonté pure et dure, qui bien sûr nous fige. Donc le soin qu'un jardinier prend pour favoriser la croissance d'une plante dans son jardin, c'est l'exemple qui est souvent employé. Il alimente, il protège ses plantes lorsque le froid arrive, que l'hiver arrive. Il va naturellement avoir une un rapport à l'expérience qui est empli de bienveillance et de présence juste, une attitude, un rapport juste. S'il y a des fleurs, est-ce que vous allez le voir tirer sur les pétales pour que les fleurs poussent plus vite? C'est magnifique d'avoir cette image. Vous vous rendez compte que c'est exactement ça qu'on fait par moment. C'est qu'on se maltraite. Donc, il peut y avoir même, quelque part, par moment, une manière qui est même pas... C'est même pas quelque part de la résistance, mais qui est de l'ordre, peut-être, de l'hostilité ou de la maltraitance. Donc, laissez pousser... La fleur, naturellement. Laissez éclore le cœur, l'ouverture, naturellement. Ce temps de l'éclosion, le temps de la patience, le temps de la résilience qui permet aux choses d'éclore dans leur propre temps, le rythme des choses, organique. Et c'est ceci que je trouve tellement juste dans ce chemin précisément. C'est que on a vraiment à cœur de prendre soin du rythme de l'ouverture. Et c'est exactement comme ceci qu'on va pouvoir se rendre compte qu'il y a à ce moment-là plus de présence, plus de disponibilité, moins de saisie. Ça va exactement dans le sens de pouvoir trouver un objectif qui est celui de la non-saisie, de la résilience, et tout à coup, waouh, c'est une toute autre vie qui se trame. Donc, beaucoup de choses se produisent déjà. Et ça, c'est fantastique. C'est exactement dans ce sens-là qu'on se rend compte que nous n'avons pas besoin d'intervenir. Et ce mot intervenir, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis en train d'intervenir? Est-ce que je suis en train d'essayer de changer le cours des choses en intervenant? Comprenant que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est déjà là. Et ça, on l'a dit maintes fois, c'est ce qui est déjà en train de se passer. La nourriture pour l'éveil, c'est ce qui est là. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et comment on intervient? Ben, la manière la plus simple, c'est en voulant quelque chose qui n'est pas là. Et c'est très important de se rendre compte de ceci, parce que c'est toute la fixation qu'on peut avoir sur vouloir un autre objectif, vouloir un résultat. Donc cette dimension d'intimité, de demeurer au contact, à l'expérience présente, reposer sur l'expérience, permet d'être en accord avec la nature des choses comme elle est. La nature des choses comme elles sont. Et c'est tout le sens de Vipassana. Et même dans un tout petit mouvement d'être au contact de la respiration ou d'être au contact d'une sensation ou d'un son, il y a vraiment cette extraordinaire possibilité de se dire, tiens, waouh, qu'est-ce que je fais de trop là? Comment je m'en rends compte? Ben, je suis en train de m'agripper. J'essaie vraiment de m'agripper. Au son, par exemple, ou dans mon attitude, par habitude de vouloir peut-être quelque part m'accrocher, m'agripper et me maintenir à distance. Donc, dit d'une manière autrement, c'est quel est le rôle que je joue dans ce processus? Est-ce qu'il y a un rôle à jouer, moi, en tant que méditant ou méditante? Le rôle, à un moment donné, quand on a vraiment, quelque part, exploré suffisamment qu'il y a beaucoup moins de perturbations mentales, quand même beaucoup moins de somnolence, beaucoup moins d'agitation, qu'il y a cette qualité de contact. Et vous tous, vous tous l'avez décrit, hein, que par moment, il y a tout simplement plus de simplicité. Notre rôle ici, c'est simplement nourrir la présence et soutenir la présence. Même si on la perd, même si par moment, voilà, il n'y a aucun doute qu'on ne peut pas être présent du matin au soir, oubliez, hein, si c'est un objectif. C'est, voilà, des va-et-vient, vous dansez avec les éléments, vous la perdez, vous la retrouvez, mais c'est un petit peu comme un hum, comme une tonalité sous-jacente. Elle est là, puis elle vient à vous. Hein? Elle vous revient, elle vous surprend, elle vous visite. Et puis on la perd, on l'a affairée, puis oh, voilà, elle vient à nous. C'est extraordinaire d'avoir ceci qui commence à se passer, en tout cas pour certaines personnes. Et la seule chose vraiment qui est dans le sens d'un rôle, c'est la continuité dans une manière souple, mais de vraiment aller dans cette continuité de constance, être juste intéressé et maintenir le contact, nourrir la présence. Ceci va nous donner un degré beaucoup plus grand de confiance. Et non pas l'inverse. Donc, nourrir la présence, c'est une chose. Et puis, l'autre chose, au niveau du rôle, c'est vraiment se protéger de l'esprit, et quelque part, on peut voir éclore ceci, qui veut imposer un changement. Ça va ensemble. Donc, si vous avez l'esprit par moment, ben, c'est une pensée, ça. Hein? Certainement que vous pouvez vous en rendre compte en tant que pensée. Je veux que ça change. Je suis impatiente, je m'excite, voilà. Donc ça, c'est l'avidité, c'est quelque part peut-être l'ambition, et ça fige plutôt que de laisser émerger le processus et d'aller à plus de découvertes, ça fige. Et c'est exactement ça qui fait qu'on sent qu'il y a une contrainte et une résistance plus grande. Donc, comment est-ce que je me situe? Qu'est-ce que je fais peut-être pour me tendre et qui fait que j'ai peut-être un nœud dans le dos, un nœud émotionnel ou même un nœud physique qui fait que j'essaye d'être trop active et imposer un changement peut bien sûr avoir un impact sur l'expérience physique. Ce qui veut dire que l'énergie est bloquée. Et il y a plein de manières dont on ne se rend pas compte des modes de faire ou d'agir qui vont créer des figements. Donc ceci ce ne sont pas des idées abstraites ou des concepts. On peut vraiment se relier et voir comment ça affecte notre vie corporelle. Le Bouddha a souvent choisi, et c'est bien pour nous puisqu'on en a une, a souvent choisi la métaphore de la rivière pour décrire le chemin et un peu le processus. Donc vous allez certainement à la rivière par moment. Il dit « Entrer pleinement dans la vie spirituelle est comme entrer dans un cours d'eau qui transporte jusqu'à l'océan. Tout ce qui nous est demandé est d'entrer dans la rivière. » Donc là, on est entré dans la rivière, hein, puisqu'on est là. J'imagine quand même. Ensuite, il s'agit d'y demeurer. L'attention ou la pleine conscience, la confiance, la clarté, la patience nous aident à flotter dans la rivière. Une fois que nous flottons, il n'y a plus tant d'efforts à fournir. C'est la nature même de l'eau qui nous transporte jusqu'à l'océan. Et ici, c'est la présence. Donc laissez-vous porter par la présence. Si nous luttons contre le courant, nous allons nous épuiser. Et c'est ce que nous faisons dans notre vie sans nous en rendre compte. Donc, dans ce magnifique description, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a un moment donné où on peut se laisser flotter. Là, l'énergie, elle a été vraiment cultivée. C'est évident. Vous avez une toute autre énergie que quand vous êtes arrivés. Tous, même ceux qui sont arrivés vendredi. Donc, il y a quelque part là, on est situé, posé, on peut se détendre. Et il y a de la vigilance, il y a de la clarté. Il y a toutes ces qualités-là qui sont certains des facteurs d'éveil qui sont à notre disposition pour qu'on puisse continuer le chemin, le cheminement, pour demeurer au contact, découvrir la nature et être en accord avec cette nature. Et cette nature, c'est d'où? C'est l'être que nous sommes. Donc, c'est très important dans cette attitude de pouvoir un petit peu explorer cette dimension de détente d'une part et de curiosité de l'autre. Parce que c'est vraiment ces deux modes, la détente, la réceptivité, l'ouverture, laisser les choses émerger, et puis en même temps cette vigilance dans le sens de ne pas perdre le contact avec le courant de la présence. Et progressivement, on laisse justement ce courant nous guider. Et cette évolution, eh bien, elle va dans le sens. Elle ne peut pas aller dans un autre sens que la clarté, plus de compréhension, plus de découverte, moins de saisie, plus de d'aise et de sagesse et de compassion. Donc, dans cette attitude-là, ce qui va être vraiment ressenti, et je l'espère pour vous que par moment vous avez cette expérience, c'est cette dimension de plus d'espace. Comme le disait un maître pendant à tous ses élèves, il a dit méditez de manière spacieuse. Sans essayer de vous agripper. Mais spacieuse ne veut pas dire dispersée. C'est vraiment très, très intéressant la différence entre être dispersé ou être spacieux, dans le sens de se laisser quelque part avoir tout l'espace nécessaire. Et on est là, on est là. On n'est pas complètement distrait à essayer de s'échapper. Nishu Kempo dit ça, c'est un Rinpoche tibétain, pour ceux qui connaissent pas. Il dit ça, ceci, laissez reposer dans la grande paix naturelle cet esprit battu sans relâche par les pensées névrotiques, semblable à la fureur implacable des vagues qui déferlent dans l'océan infini du samsara. Simplement laissez reposer dans la grande paix naturelle. Donc c'est notre dimension d'être. D'être naturel. Donc, les choses se déposent. Et à ce moment-là, on y voit clair. On voit à travers les couches qui peuvent naturellement être un peu brouillées. Et l'exemple qui est donné, c'est si vous laissez un verre d'eau boueuse, ben, si vous le laissez tranquille, naturellement, sans l'agiter, la boue se dépose au fond, puis la clarté, eh bien, elle va naturellement apparaître. C'est un petit peu la même chose. Et c'est exactement comme ceci qu'il le dit, l'eau non agitée deviendra claire. L'esprit laissé inaltéré trouvera par lui-même sa propre paix naturelle. Ça vous parle, ça? Par moment? Vous avez un petit peu le goût de ceci, le sens? Plutôt que se dire voilà, il faut que je m'agite, il faut que je fasse pour. C'est très intéressant de pouvoir se fier et avoir confiance dans la présence. À partir de là, il y a vraiment quelque chose qui peut émerger et qui nous maintient en plus éveillés, dans le sens qu'il y a de la joie, parce que c'est tellement plus aisé, il y a de l'aise, on respire. Il y a de la clarté et il y a aussi beaucoup plus de curiosité. Et dans ces phases, c'est évident que quoi qu'il arrive, on est content de pratiquer. Quoi qu'il arrive. C'est pas prendre ça et puis pas, et puis commencer à couper les cheveux en quatre. On a vraiment cette disposition à pouvoir accueillir un petit peu plus les événements comme ils viennent. Donc, meilleure est la détente, meilleure est la méditation. Donc, c'est intéressant, c'est exactement quelque part, ça touche à l'aspect de l'effort juste dont j'ai parlé il y a quelque temps. Mais dans une retraite, on peut voir cet effort juste se déployer d'une certaine manière à un moment donné. Et puis, suivant les qualités et le temps dans la retraite, le moment, eh bien, il y a d'autres facteurs d'éveil qui sont là. Et qu'à ce moment-là, on est encore plus dans cette disposition à vraiment demeurer dans une attitude de non-agir. Et le véritable piège, c'est cette dimension du temps qui peut rester et du coup, résultat à obtenir. Ce que je veux. Alors qu'il y a peut-être quelque chose de complètement différent qui peut se déployer. Une toute autre découverte que celle à laquelle on s'attend. Donc, toutes les idées sur ce qui devrait encore se passer. Si vous en avez, attention. Ce qui encore devrait se passer dans cette retraite-ci. Donc, vous pouvez laisser tomber un petit peu les suppositions, les préjugés et toutes les opinions que vous pourriez avoir à ce sujet. Et les voir déjà. Les voir. Donc cette disposition permet que toutes les expériences au niveau du processus de la méditation, quelles qu'elles soient, ont vraiment la même valeur. Toutes. Donc on n'est pas en train de valoriser certaines et d'éviter d'autres. Et cette extraordinaire capacité de comprendre vraiment profondément qu'elles ont toutes, toutes, sans exception, une valeur, c'est celle de nous éveiller. Toutes, même les plus difficiles. Et dans cette attitude de soin, la bienveillance là a son rôle. C'est justement aussi cette attitude de prendre soin, si c'est difficile et douloureux, par moments ça l'est, cette prise de soin qui fait que simplement on apprend à s'accompagner. C'est cette dimension de compassion qui nous permet d'embrasser, d'envelopper, de contenir, de soutenir, d'aider, prendre par la main, quelle que soit la manière dont ceci se passe. Mais il y a là toute une dimension de résilience et d'aide qui va dans le sens souhaité. Même s'il y a des petits moments d'aversion, même s'il y a des mouvements de critique, c'est là. Il y a un mouvement critique. Ah! Puissais-je en prendre soin? L'entendre et pas nourrir encore un autre mouvement de critique, mais vraiment se dire, c'est ok. Donc dans ce sens, on peut vraiment aussi prendre en compte toutes les manières qu'on a d'aller contre. Et de voir ça comme des manifestations de la conscience Les mouvements d'impatience, les petits jugements, les exigences. Il y a toute une manière qu'on a, bien sûr, de résister à la nature de ce qui est. Et ça, ce sont des tendances habituelles, c'est tout. C'est des schémas d'habitude. Et on commence à vraiment aussi bien les fréquenter, je crois, et de voir ceci pour ce qu'ils sont. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Donc on intègre tout. Je vais lire un tout petit texte d'Alexandre Jolien qui dit: le gros malentendu est de croire qu'une vie spirituelle nous épargne des émotions négatives et congédie pour de bon les tiraillements, les tourments, les hauts et les bas, alors que même le Dalai Lama et les grands saints connaissent à leur façon de sacrés quarts d'heure. Cela me rassure d'une certaine manière. Quand une émotion négative se pointe, je sais qu'elle ne va pas durer. Même si c'est un mauvais moment ou carrément un vilain jour, j'ai confiance et je connais la règle du jeu. Cette loi universelle qui veut que tout passe. Regardez passer les vagues tranquillement sans me laisser submerger par elles. Dans la vie de chaque être humain, il y a des vagues. Dans l'esprit du Dalai Lama, dans celui de l'abbé Pierre, il y a eu des vagues. Une vie sans vagues n'est sans doute pas possible. Et le tout est peut-être d'apprendre à nager dans les vagues de l'âme. Et c'est vraiment ce qu'on fait. Hein? Donc, voilà. Sans vagues à l'âme. Qu'on puisse continuer à cheminer encore quelques jours au contact de nous-mêmes, de cet extraordinaire être que nous sommes. Là, on va juste s'asseoir en silence. Je vais lire encore un petit poème. Nul besoin d'être bon, nul besoin de marcher sur les genoux, sur une centaine de kilomètres à travers le désert, repentant. Il te suffit simplement de laisser le doux animal qui est en toi aimer ce qu'il aime. Raconte-moi le désespoir, ton désespoir, et moi, je te raconterai le mien. Entre-temps, le monde poursuit son cours. Entre-temps, le soleil et la pluie, en petits cailloux transparents, balayent les paysages, au-dessus des prairies et des arbres profonds, des montagnes et des rivières. Entre-temps, les oies sauvages, là-haut dans le ciel bleu et pur, rentrent de nouveau au pays. Qui que tu sois, et aussi esselé que tu puisses être, le monde s'offre à ton imagination. Il t'interpelle comme la voix rauque et animée des oies sauvages, clamant encore et encore ta place au sein de la famille des choses. Mary Oliver.